Et le 7-9, aujourd'hui, c'est avec Ali Badou qui est aux commandes. Ali, on a 10 secondes pour se dire bonjour.
10 secondes, mais c'est largement suffisant, Laetitia Gaillet, pour vous faire un cœur avec les mains et pour vous souhaiter une bonne journée et un splendide week-end.
Merci
d'écouter France Inter, il est pile 7h.
Ali Badou, le 7-9.
Vendredi 27 mars, un grand bonjour et bon réveil à tous. Bienvenue sur France Inter. Je suis ravi de vous accompagner ce matin et à mes côtés, mais à bonne distance, en studio avec moi, Agnès Soubiran. Bonjour Agnès.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, c'est aujourd'hui le pays le plus touché par l'épidémie de Covid-19 dans le monde. Les États-Unis, avec plus de 80 000 cas recensés, près de 1 200 morts et des hôpitaux à New York déjà saturés. Les autres titres, Agnès.
La mort en France d'une adolescente de 16 ans et le désarroi des soignants. Emmanuel Macron reçoit ce matin les partenaires sociaux pour tenter de les rassurer après les ordonnances assouplissant le droit du travail. L'inquiétude à La Réunion où les transferts de malades seront impossibles. Le confinement jour 11 et les spécialistes qui multiplient les messages de prévention. Enfin, Toulouse-Lautrec comme vous ne l'avez jamais vu ni entendu.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50. Il est à la tête de la cellule de crise de la PHP. Il coordonne le travail de toutes les équipes de santé sur le terrain, dans les hôpitaux, les centres de soins en Île-de-France. Le professeur Bruno Rioux, directeur médical de crise de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, répondra à nos questions tout à l'heure. À 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'un de nos grands philosophes, Frédéric Worms. Il est spécialiste des questions de santé, de la place du soin dans notre vie démocratique, membre du comité national d'éthique et il travaille à chaud sur la crise que nous traversons. Vos questions à Frédéric Worms au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter.
France Inter.
Le 25 février dernier, la Nouvelle-Orléans fête Mardi Gras et comme le veut la tradition, des centaines de milliers de personnes s'échangent des colliers de perles en plastique. 10 jours plus tard, premier cas de coronavirus et depuis, la Louisiane est devenue l'un des principaux foyers de Covid-19 aux États-Unis. Autre foyer préoccupant, l'État de New York, 100 décès enregistrés durant les dernières 24 heures et des hôpitaux d'ores et déjà débordés. Reportage à New York de Loïc Loury.
Des sacs poubelles en guise de blouse, la photo faisait hier la une du New York Post. Certains hôpitaux de la métropole à au moins 2 semaines du pic de l'épidémie manquent déjà du matériel de base, comme des masques. Le docteur Cornelia Griggs, ici sur CBS, travaille au Presbyterian Hospital à Manhattan. Quand vous êtes docteur, c'est vraiment votre armure. Lorsque vous entrez dans la chambre d'un patient avec une pathologie très contagieuse et que vous n'avez pas cette armure, vous êtes totalement vulnérable. Même pénurie, même sentiment d'abandon des soignants à Elmhurst dans le Queens où 13 patients sont morts du coronavirus lors de la seule journée de mercredi. Le docteur Colin Smith, visiblement abattu, a décrit au New York Times une situation dramatique. C'est de pire en pire. Nous avons dû employer un camion frigorifique pour conserver les corps. Sur cette vidéo, elle montre les 5 respirateurs restants. Elle évoque les 400 patients quotidiens contre moitié moins habituellement et craint la catastrophe à venir. Si ça continue comme ça, un mois ou deux ou trois ou cinq, comme en Chine, alors qu'on est déjà si débordé, on n'a pas ce dont on a besoin. C'est mauvais, des gens meurent et c'est très dur. La ville de 8,5 millions d'habitants, bientôt épicentre mondial de la pandémie. New York, Loïc Loury, France Inter.
La Chine et les États-Unis doivent s'unir contre l'épidémie de Covid-19. C'est ce que déclare ce matin le président chinois après un entretien téléphonique avec Donald Trump.
7h04, Agnès. 1696 morts en France, plus de 3000 malades en réanimation. C'est le bilan que dressaient hier soir les autorités de santé.
Et une première inquiétante hier, l'annonce de la mort d'une adolescente de 16 ans, une lycéenne de Morsang-sur-Orge dans l'Essonne, qui révèle Le Parisien ce matin, était en détresse respiratoire et hospitalisée depuis plusieurs jours et qui n'avait pas a priori de pathologie particulière. Un décès aussi jeune qui reste exceptionnel selon les médecins. Face à la situation de plus en plus tendue dans les hôpitaux, le personnel soignant a besoin de soutien psychologique. Des lignes téléphoniques gratuites sont désormais en service. Gaëlle Joly.
Quand elle sortira la tête de l'eau, cette infirmière de réanimation sait qu'elle aura besoin d'aide. Les journées sont bien trop longues, le quotidien bien trop lourd à porter.
Je ne sais pas comment on fait pour tenir. De voir les gens, ils sont seuls, les patients dans leur souffrance. Et en même temps, il y a aussi la famille à côté qui demande à être informée. on a l'impression que ce n'est jamais suffisant parce que on a aussi les soins à faire et oui, il y a vraiment des fois des moments où on flanche un peu plus et en même temps on se dit voilà, il faut y aller d'abord, puis on verra après.
C'est en entendant la souffrance des médecins que Vincent Haïn, psychanalyste, a proposé il y a quelques jours d'ouvrir bénévolement une plateforme d'écoute.
Nous aussi, les psys, on est dans une médecine de guerre. Là, on est sur Omaha Beach. Hein. Un personnel soignant qui tombe, il faut qu'on le répare, sinon on n'en aura plus. Ce qui les déstabilise le plus, c'est que les patients qui meurent seuls, ça les marque terriblement. Et puis, ce qu'ils nous disent aussi, c'est que ils ne peuvent pas en parler à leurs conjoints. Et donc, ils gardent ça pour eux, et c'est grosso modo ce qu'il y a de pire à faire.
Les coups de fil ne sont pas encore très nombreux, le personnel médical trop occupé. Mais Vincent Haïn prévient, il sera là, encore, à l'écoute, une fois la crise sanitaire passée.
Et pour faire le point sur les mesures prises et à prendre, Édouard Philippe réunit ce matin en visioconférence l'ensemble du gouvernement avant de prendre officiellement la parole. Emmanuel Macron resalue lui tout à l'heure à 11h les partenaires sociaux pour atténuer l'impact économique de l'épidémie. Le gouvernement a adopté mercredi dernier 25 ordonnances, notamment pour assouplir le droit du travail, ce qui provoque l'inquiétude des syndicats. La CGT a ainsi déposé un préavis de grève pour le mois d'avril contre des mesures qualifiées d'antisociales. Alors qu'attendent les partenaires sociaux de cette réunion? Élément de réponse avec Hélène Philly.
Les syndicats digèrent mal les ordonnances prises par le gouvernement qui permettent aux employeurs d'imposer la prise de 6 jours de congé ou d'augmenter le temps de travail. Et ils le feront savoir. Cyril Chabanier, président de la CFTC.
On peut être compréhensif, mais on ne peut pas non plus leur demander tout et n'importe quoi et raccourcir les délais de repos, aller les faire travailler jusqu'à 60 heures, c'est des risques aussi sur la santé.
Et que dire de la protection des salariés? C'est une lourde responsabilité pour le chef d'entreprise, François Asselin, président de la CPME.
Nous devons assumer un risque qui nous échappe. Quand bien même nous mettons en place toutes ces mesures préventives, de gestes barrières, de mesures barrières, nous ne pouvons pas assurer à nos employés que nous ne pouvons pas être touchés les uns ou les autres par le risque épidémique.
Il faut avoir les moyens, le matériel pour protéger les salariés, insiste la CPME, mais l'activité doit pouvoir continuer dans beaucoup de secteurs. Ce n'est pas l'avis de Céline Verzelletti à la CGT.
Il y a encore beaucoup trop de personnes qui sont dans l'obligation d'aller travailler. Une mesure urgente à faire adopter par ce gouvernement, c'est l'arrêt immédiat de toutes les activités professionnelles dites non essentielles.
Plus vite l'épidémie sera endiguée, plus vite l'économie pourra repartir. Ce constat-là ne pourra être que partagé.
Et une nouvelle ordonnance très attendue doit être publiée aujourd'hui, celle qui assouplit les conditions pour bénéficier du chômage partiel, dispositif qui concerne déjà près d'1,6 million de salariés français et 150 000 entreprises pour un coût estimé à 4 milliards d'euros. Pas de chômage pour les 67 salariés des laboratoires Boiron de Montrichard dans le Loir-et-Cher, dont l'usine doit en principe fermer prochainement. Ces salariés sont en train de se lancer dans la fabrication de gel hydroalcoolique. Maxime Debs.
Produire en quelques jours du gel en grande quantité, les laboratoires Boiron ont su réagir, s'adapter. Son directeur général délégué, Jean-Christophe Bessa.
C'est du mélange d'alcool, de glycérine et de peroxyde d'hydrogène. Donc, ce sont des matières premières que nous avions. Donc, c'est un process relativement simple.
Et cette adaptation simple, rapide, interpelle à Montrichard où 3 salariés participent pour le moment à l'effort de production. 2 semaines seulement après l'annonce de la fermeture programmée du site. L'homéopathie qui ne sera plus remboursée oblige la direction, soit. Mais pourquoi pas produire ici ce gel à grande échelle demain, ce qui permettrait aussi peut-être d'anticiper une future pénurie. Frédéric Degore de la CFDT.
Ça peut créer de l'activité et de l'emploi sur Montrichard, ça c'est sûr. On a les machines pour le fabriquer la sauce, comme on dit chez nous.
Ici, on a tout, y compris de grands entrepôts pour stocker jusqu'à 15 000 litres faciles, assure ce syndicaliste. Ce à quoi répond la direction.
Ce n'est pas notre priorité. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on gère la crise comme tout le monde et on attendra d'être en sortie de crise pour envisager la suite.
Une suite qui prend davantage la forme d'une fermeture et la recherche d'un repreneur dans le cadre de la loi Florange, assure la direction. On fera tout pour les salariés.
Mobilisation en Outre-mer aussi avec des producteurs de rhum qui fournissent de l'alcool pour la production de gel, voire en fabriquent eux-mêmes en Martinique. 4500 bouteilles ont été mises à la disposition des autorités et à La Réunion, le groupe Isotier devrait livrer dès la semaine prochaine 30 000 litres supplémentaires de gel hydroalcoolique. La Réunion qui s'inquiète de la propagation du virus, 135 cas recensés et 4 patients en réanimation, dans un territoire où tout transfert de malades sera impossible en cas de saturation des hôpitaux. Emmanuel Grabé.
aller.
Rester chez soi 14 jours quand on revenait d'une zone à risque comme la métropole, la règle nationale a été appliquée à La Réunion pendant les vacances de mars. Il aurait fallu des lieux de quarantaine dédiés pour la députée Erika Baretsch afin de tenir compte des conditions de logement de nombreuses familles.
Les Réunionnais sont revenus de vacances potentiellement contaminés. Quelqu'un qui rentre et qui va dans un logement surpeuplé, il contamine sa famille.
Impossible de prévoir l'ampleur de l'épidémie, mais 230 lits de réanimation pour plus de 800 000 habitants, ça pourrait ne pas suffire. Jérôme Le Mans dirige les urgences et la réanimation de l'hôpital de Saint-Pierre.
On a, par rapport à la métropole, un fort taux d'insuffisance rénale, de diabète et d'hypertension qui sont des facteurs de risque du Covid. On est très très à risque, on a tous très peur de tout ce qui risque de nous tomber dessus.
Mardi, un stock de masques périmés débloqué en urgence face au manque s'est révélé inutilisable, moisi, alors que les livraisons promises par l'État se font attendre. Erika Baretsch.
Ça, rajouté à un sous-effectif, à une absence de possibilité de jouer la solidarité de soins, puisqu'on est à 10 000 km, je dis que ça fait beaucoup.
Un espoir pour contrôler l'épidémie, les dépistages multipliés par 4 en quelques jours, en attendant de connaître l'équipement du porte-hélicoptère de l'armée qui fait route en ce moment vers l'île.
Inquiétude également en Guadeloupe, où la vétusté du réseau de distribution d'eau potable pose problème. En Polynésie, certaines petites îles ne disposent d'aucune structure de santé, avec une population âgée qui souffre d'obésité et de problèmes respiratoires. Ce confinement qui dure jour 11 est particulièrement difficile pour les femmes et les enfants victimes de violences. Le ministre de l'Intérieur dit constater une hausse de 32 à 36% de ces violences conjugales. Un dispositif va donc être mis en place dans les pharmacies. Le détail dans le journal de 7h30. Confinement difficile aussi pour les personnes dépendantes. Les spécialistes des addictions multiplient, Célia Kiré, les messages de prévention.
D'abord, pour les personnes dépendantes, la crainte d'être privée brutalement de ces produits a créé du stress et de l'angoisse. Il est donc essentiel, en premier, de rassurer pour Jean-Pierre Coutron de la Fédération Addiction.
C'est quelque chose qu'on a déjà constaté depuis 10 jours. Hein. C'est clair qu'on a laissé les boutiques de tabac, l'uraliste ouvert, on a laissé l'accès à l'alcool ouvert, mais il n'empêche que pour un certain nombre de personnes, ça a quand même, ils ont eu peur d'être privés. On a simplifié les procédures pour le renouvellement des traitements de substitution. On a réouvert les boutiques de vapotage. Ça a été un travail de cette première semaine.
Et il a fallu expliquer aux personnes dépendantes qu'elles pourraient continuer à être soignées. Ensuite, ces risques d'addiction sont accrus globalement pour toutes les personnes qui souffrent d'anxiété.
Il y a un vrai risque et on le voit avec des apéros sur Internet qui commencent à se mettre en place, mais on le voit aussi avec des personnes qui se remettent à boire un peu toutes seules le soir parce que c'est compliqué, ou se remettent à fumer. La fonction anxiolytique et l'espèce de lien culturellement construit entre l'alcool notamment et la sociabilité sont de vrais pièges en ce moment.
Attention donc au changement d'habitude, les spécialistes des addictions préviennent, un verre d'eau est toujours préférable à un ou plusieurs verres de vin qui deviendraient quotidiens.
7h13 et pour terminer le journal, Agnès, pour se changer les idées, c'est le moment de découvrir l'art avec humour.
Et si vous avez aimé ou loupé l'exposition de Toulouse-Lautrec au Grand Palais, vous allez vous régaler avec une web-série sur la vie et l'œuvre du peintre de Montmartre, Isabelle Pasquier.
Je me présente, je m'appelle Henri. Je vous emmène dans le Paris de la Belle Époque. Et comme dans la série Narcos, il y aura des moustaches, des femmes, de l'anticonformisme, des nuits blanches, de la vitesse.
Ce ton décalé aurait sans doute beaucoup plu à Toulouse-Lautrec, qui se moquait des conventions et préférait la marge à la bourgeoisie. Ce qu'il veut, c'est peindre vrai, pas idéal.
Pour moi, la petite blanchisseuse mérite autant son portrait qu'un banquier.
À travers des dizaines de toiles, dessins, affiches, photos, la web-série nous emmène dans le monde sulfureux de la Belle Époque.
Vous avez vu le film « Minuit à Paris » de Woody Allen ? Je joue dedans. On me voit dessiner et discuter avec mes potes Degas et Gauguin à Montmartre.
Et dans les nuits interlopes de Montmartre, Toulouse-Lautrec, qui boite, est fasciné par les femmes et la vitesse.
Aujourd'hui, je me serais régalé. J'aurais croqué les filles qui dévalent Montmartre sur leur Vélib. Un grand prix de F1. C'est pour ça qu'on dit que j'ai été le nouveau peintre de la vie moderne vécue.
En 5 fois 3 minutes, la vie d'une légende de la peinture avec des clins d'œil à la pop culture.
Les gens disent « Toulouse, il boirait n'importe quoi !» Et ça n'a pas aidé. Parti à 37 ans, comme Raphaël, Watteau, Van Gogh, c'est toujours 10 ans de plus que Kurt Cobain.
Et c'est à découvrir sur le site du Grand Palais et sur Instagram.
Merci Agnès.